Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, j'avoue que je me fais un peu plaisir avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je suis en compagnie de Caroline, mon associée. Salut Caro!
Salut Joëlle!
Comment ça va?
Ça va super bien.
Oui? Oui. On va vous parler aujourd'hui de un livre que j'ai lu il y a quelques années, déjà 2-3 ans à peu près, qui a été une révélation pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi, puis depuis ce temps-là, j'en parle tellement à tout le monde que je pense que je devrais avoir des redevances sur les ventes de ce livre. Le livre s'appelle « Rocket Fuel » et ça explique un petit peu les deux types de leaders qu'une organisation a besoin pour qu'elle puisse prospérer, avoir du succès à travers le temps. Et la raison pour laquelle ça m'intéresse vraiment beaucoup de vous parler de ce sujet-là, c'est que Caro et moi, on représente ces deux types de leaders-là et l'arrivée de Caro dans ma vie, ça a tout changé, je pense, pour moi personnellement en tant que dirigeante d'entreprise, mais pour tous ceux qui vivent autour et dedans cette entreprise-là. Puis on en parle tellement souvent à nos clients, on leur propose ce modèle-là parce que ça fonctionne vraiment bien pour nous. On s'est dit pourquoi pas le faire de façon plus large et en faire un sujet d'un épisode de podcast.
Alors, moi, je peux te dire que ça fait sûrement au moins 3 ans, parce que ça va faire bientôt 3 ans qu'on travaille ensemble, puis je pense que j'ai répondu à l'annonce dans le journal « Visionnaire cherche son intégrateur ».
Exactement, j'étais désespérément à la recherche de mon intégratrice. Alors, ben comme vous l'avez deviné, les deux types de leaders s'appellent « Visionnaire intégrateur ». Puis pour vous faire une petite histoire, dans le fond, j'ai lu le livre qui m'a été recommandé par, en fait, un de nos anciens invités, un invité qu'on a eu dans le podcast qui s'appelle Daniel Beaulé, qui est un coach, et qui me dit « Faut que tu lises ça, Joëlle, parce que t'as l'air à te t'auto-flageller d'être toi-même, alors qu'en réalité, t'es juste une visionnaire. » Je dis « OK, c'est quoi ça, cette histoire-là? » J'ai lu le livre, parce que j'ai lu tous les livres que Daniel m'a recommandé, et chacun était pertinent, il m'a fait du bien. Et celui-là, quand je l'ai lu, j'ai commencé, déjà les premières pages, ils décrivent le visionnaire, et je cherchais les caméras, là, je me disais, je suis espionnée. Ils me décrivent trop à la lettre et c'est un peu épeurant. Et en même temps, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a fait réaliser que je suis juste, oui, je suis pleine de défauts, mais en réalité, je suis juste un type de personnalité qui est bien représentée dans ce livre-là, qui vient avec des forces, qui vient avec des défauts.
Puis on mais va tellement de qualité. Allô, parle-nous du visionnaire. Parle-nous de toi, là, Joëlle.
Ouais, OK. Le visionnaire, là, c'est des gens qui sont un peu hyperactifs. Hein. Souvent, c'est, on peut toujours diagnostiquer, mais c'est souvent des gens qui ont un TDAH. C'est des générateurs d'idées. Beaucoup d'idées. Pas toutes bonnes. Mais à l'intérieur de ça, il y en a certaines qui valent la peine d'être retenues. Fait que retenez ça, on va vous parler après, ça va être quoi le rôle de l'intégrateur dans ces idées-là, le flot d'idées qui sort de ces visionnaires-là. Mais en réalité, c'est que les visionnaires, c'est des gens qui ont les antennes sur le marché, qui font beaucoup de liens avec ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation et qui vont voir venir les tsunamis, qui vont voir venir les opportunités aussi, puis qui vont être capables à ce moment-là de générer les idées qui vont faire vivre l'organisation à travers le temps, parce que faut évoluer, hein? On peut pas juste continuer à faire tout le temps la même affaire, sinon on est à risque de disparaître comme organisation.
Les grands intuitifs, hein, je pense.
Exactement. Intuitifs, des fois on comprend pas d'où ça sort l'idée, mais bon, elle arrive, pas toujours au bon moment, malheureusement. C'est des gens très passionnés. Bon, vous l'entendez probablement dans mes propos. Des gens qui parlent beaucoup. On entend même Charles, notre technicien, rire en arrière. Vous l'entendez pas. Nous, on l'entend. Donc, très passionnés, qui parlent avec leurs mains, très passionnés par leurs entreprises, leurs clients, leurs employés. Bref, c'est des gens qui trouvent des solutions à des grands problèmes aussi. Tu sais, souvent, c'est des choses que je me suis fait dire souvent. Des gens qui se creusent la tête avec des problématiques, puis ils nous amènent ça, puis on trouve des solutions simples à des problèmes relativement complexes. Donc ça, c'est souvent des choses qui reviennent par rapport aux visionnaires.
Mais des gens aussi, moi j'ai l'impression, tu parlais de passion, mais vous avez besoin de cette passion-là pour vivre aussi.
Parlons de ça. On n'est pas fait pour la routine, hein? Les visionnaires, c'est des gens qui carburent à la nouveauté, carburent au changement, à essayer des nouvelles choses. C'est souvent des gens qui vont être en charge du R&D, hein, quand ils sont pas nécessairement des entrepreneurs, puis qui ont pas fondé leur entreprise, parce que plus souvent qu'autrement, on les retrouve dans des rôles d'entrepreneurs, puis ils ont fondé leur propre organisation. Mais beaucoup R&D aussi, parce que c'est souvent les gens qui vont amener de la nouveauté dans l'organisation, parce que s'ennuie dans la routine, tu sais. Ouais.
Moi, je connais des dirigeants d'OBNL aussi, oui, qui sont des grands passionnés, des grands, puis qui seraient définitivement des visionnaires.
Oui, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Puis si tu penses à ces gens-là, souvent c'est eux qui ont fondé l'OBNL, hein.
Ouais. Ou qui la font, qui la portent, oui, qui incarnent la mission, la vision de l'organisme, là, définitivement.
Ben, vision, mission, souvent, c'est des éléments qui reviennent en lien avec ces profils-là de visionnaires. C'est ceux qui vont aussi créer la culture, s'assurer de la faire vivre dans l'organisation, faire vivre les valeurs de l'organisation auprès des équipes, qui vont tenter autant que possible d'inspirer les gens. Là, ouais.
Très bon pour démarrer des projets, moins pour les terminer.
Ah, clairement. On n'est pas dans la... On est des sprinteurs. On n'est pas des marathoniens. Donc, de se rendre jusqu'au fil d'arrivée, c'est des fois un peu pratiquement impossible. Donc, il faut surtout pas... C'est pas des bons chargés de projet, là, les visionnaires. Donc, de s'assurer de maintenir le rythme et l'intérêt sur le projet jusqu'à la fin. C'est plutôt des gens qui vont faire des start-up, soit à l'intérieur de l'organisation avec des nouveaux projets, qui vont développer des nouveaux marchés, des nouveaux types de services, des nouveaux produits, nouveaux, hein, nouveau étant le terme à retenir, je pense, pour les visionnaires. Sinon, ils vont s'éteindre.
Ouais. Mais c'est des leaders tellement inspirants, tu sais. moi, je tu sais, puis je pense à des gens à toi, évidemment, parce que souvent, quand on a des idées qu'on travaille ensemble, je vais souvent dire à Joël, OK, c'est toi qui vas le présenter à l'équipe parce que tu vas tellement le présenter mieux que moi, tu sais, parce que t'as ce côté pétillant.
Passionné.
Ouais, mmh. Qui fait en sorte que les gens ont envie de te suivre, de suivre des visionnaires.
Puis, ça a son couteau à double tranchant, évidemment, parce que sans l'intégrateur, vous allez comprendre pourquoi c'est absolument nécessaire un intégrateur dans une organisation après ça, sans l'intégrateur, puis c'est ce que je vivais, moi, avant l'arrivée de Caro, c'est que nos idées dans notre tête sont toutes bonnes, sont toutes importantes, ils doivent toutes être mis de l'avant tout de suite. Alors, on fait pas de tri dans ces idées-là, puis on prend pas nécessairement le recul pour se dire peut-être qu'il faut que je la laisse mijoter dans ma tête une semaine ou deux avant de la présenter à mes employés puis de leur dire de mettre ça en marche. Alors, ça fait un chaos complet dans l'équipe parce que les gens se perdent à un moment donné. Donc, le focus, là, c'est vraiment pas dans les qualités du visionnaire. Et le fait de défocusser l'équipe est définitivement quelque chose qui est vécu dans les organisations qui vivent qu'avec un visionnaire comme leader.
Mm-hmm. Alors, souvent des changements de direction, moi, d'orientation, oui, là, on part dans cette direction-là, après ça, on change, on s'en va là. Et que ça, des fois, on va entendre ça de certaines équipes ou employés qui disent, mais on sait plus où aller parce qu'une journée, c'est quelque chose, l'autre jour, c'est d'autres choses. Ben, il y a des chances que vous ayez un visionnaire comme gestionnaire, que vous soyez vous-même un oui, visionnaire.
Puis c'est ce que l'équipe vivait, justement, avant l'arrivée de Caroline, puis on en est conscient, là, que ça fonctionne pas quand on est tout seul dans cette situation-là comme visionnaire, puis que on crée, là, des chaos dans notre organisation. Mais avant de lire le livre, je me sentais juste inadéquate comme leader, incomplète, avec pas tout ce que ça prenait pour être capable de diriger mon organisation puis de l'amener à l'autre étape. Je pense que j'étais la bonne personne pour la démarrer, mais il manquait des choses pour être capable de la stabiliser. Mm. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça me prend mon intégrateur ou intégratrice, et je me suis mis à la recherche jusqu'à ce que je trouve Caroline, qui est une parfaite intégratrice. Là, il faut décrire c'est quoi un intégrateur ou une intégratrice.
Vas-y.
Oui. Tu veux que je le fasse? Ouais, non, vas-y. Non, okay. Tu veux. Vas-y.
Ben, je pense que c'est quelqu'un qui gère des opérations. C'est quelqu'un qui est très orienté vers les résultats, très orienté vers les processus, qui a un léger esprit critique, on pourrait dire.
Non, léger est pas le bon terme. Autocritique et esprit critique en général.
On fait là, pas de discrimination. Non, on est critique avec tout le monde, avec soi-même.
C'est distribué équitablement à travers toute l'équipe. Puis il faut juste, je pense, faut le mentionner. Il faut juste pas que les gens le prennent personnel. Puis faut le voir comme une force. C'est que les critiques comme Caroline, comme intégrateur, c'est qu'ils voient toujours le bout qui va faire que ça va être encore meilleur. Tu sais, comment améliorer toujours les choses, les livrables, les processus, l'amélioration continue, que moi, je trouve ça hyper inspirant parce que moi, je le vois pas, ça.
Mm-hmm. On voit les obstacles. Oui, on peut avoir un côté un peu peut-être pessimiste même, là, mais souvent...
Moi, je suis pas d'accord. Puis tu sais, tu dis tout le temps ça, tu dis tout le temps, ah, c'est un peu comme le party pooper, puis en réalité, c'est que t'es la personne qui fait en sorte qu'on reste grounded, tu sais, que ça reste réaliste, qu'on part pas sur tes ballons à chaque fois que j'ai des idées. Puis le fait d'avoir cet aspect-là réaliste vient équilibrer, là, je pense, dans l'équipe, mon côté beaucoup trop optimiste des fois.
Parce que gérer une organisation, en réalité, c'est quand même... Ça prend un certain sprint, puis il y a des moments où on doit sprinter, mais c'est, somme toute, quand même vraiment un marathon.
Absolument.
Donc, de garder cette rigueur-là, ce focus-là au quotidien, c'est un défi, mais je pense que c'est nécessaire là, pour être capable d'accomplir certaines choses.
Ouais. Puis le bout que tu as mentionné, c'est la capacité à voir comment une idée peut s'opérationnaliser. Ce qu'un visionnaire est incapable de faire. Le visionnaire est capable d'avoir l'idée, la vision, puis il sait où est-ce qu'il veut s'en aller. Il a aucune idée comment s'y rendre. Mmh. Alors que l'intégrateur va premièrement faire le ménage dans les idées. Puis là, faut que je vous raconte comment Caro fait ça avec brio. Quand j'arrive avec une nouvelle idée, si elle la trouve finalement soit pas bonne, soit c'est pas le bon timing, soit on n'a pas les ressources, ça c'est pas en tout aligné avec notre plan stratégique puis notre alignement qu'on s'est défini, ben elle me dit « C'est-tu quoi, je vais y penser? » Puis là, elle me revient pas. Et l'idée meurt de sa belle mort parce qu'elle n'est pas alimentée d'un autre enthousiaste ou enthousiasme nécessaire pour qu'elle puisse survivre. Fait que c'est parfait. Mais ouais. Les idées qu'elle trouve intéressantes, par exemple, ben là, oh, elle les attrape puis elle fait un plan avec. Moi, je trouve ça magique.
Ouais. Ce qui est drôle, ce que tu m'as déjà dit que je trouvais assez drôle, c'est juste à l'idée de devoir me présenter tes idées, tu t'auto-censures toi-même. Donc ça, moi, ça me fait bien rire. Fait que juste, c'est en disant « Oh, je pense que ça va pas passer le filtre de Caro. » Fait que tu dis « Bon, ben je pense que je vais laisser tomber pour cette idée-là. »
Ou je me prépare plus. Je l'ai réfléchi plus longtemps quand j'ai des idées auxquelles je tiens davantage. Ben là, je me dis, je sais, je vais me faire challenger sur ci, sur ça, sur ça, sur ça. Fait que je fais mes recherches, je prépare mon plan de match, je prépare mon pitch. Parce que si je réussis à convaincre Caroline que c'est une bonne idée puis qu'on va aller de l'avant, honnêtement, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, tu sais.
Puis moi, à l'inverse... T'sais, moi, pour moi, je sais à quel point c'est important pour toi d'être alimenté par des projets, par de la nouveauté. Donc, en contrepartie, moi, je pense que j'essaie de toujours te laisser ce petit côté-là où je peux te permettre de rêver, puis d'avoir des idées, puis de... parce que je pense que sans ça, on peut vite éteindre un visionnaire aussi s'il n'y a pas du tout cette possibilité-là de pouvoir explorer puis sortir du cadre. Puis je pense que, en tout cas, ce que nous, on pense, c'est que cette combinaison-là de collaborer avec un visionnaire, un intégrateur, c'est vraiment, en tout cas pour nous, extraordinaire.
Ça fonctionne, exactement. Ouais. Puis je pense que c'est important de mentionner que ces deux leaders, Hein? Le modèle, quand on lit le livre, ce qu'il explique, c'est pas juste quelqu'un qui exécute, là, qui va... Parce que souvent, des visionnaires vont dire « J'ai besoin de me trouver quelqu'un pour m'assister. » C'est pas ça, là. Ça prend deux personnes qui ont du leadership et qui sont capables de l'exprimer, mais de façon différente et complémentaire. Mm. Puis, nous, vous allez être surpris, là, mais nous, on est vraiment en co-gestion. Hein. Caroline et moi, on n'a pas une ou l'autre qui est la patronne de l'autre. On est vraiment sur le même pied d'égalité. On est les deux associés. Puis c'est, je pense, ce qui fait que ça marche pour nous. Après, ça veut pas dire que c'est ça le seul modèle qui existe. Il y en a beaucoup qui vont être dans des rôles, mettons, de président, qui vont chercher un DG ou une personne qui va être dans un rôle de DG. Souvent, nos BNL, c'est plutôt des DG parce qu'ils ont des CA qui vont chercher un DG adjoint ou quelque chose comme ça pour se complémenter. Fait que le modèle de co-gestion est pas, je pense, nécessaire pour que ça fonctionne, mais il y a quand même des affaires qu'il faut qu'ils soient présents pour que ça fonctionne, je pense, des éléments essentiels qu'on peut pas ne pas avoir, puis je pense que à la base, il y a le respect puis la confiance.
Ouais, de savoir qu'on apporte toutes les deux des éléments qui sont essentiels. Puis tu sais, tu disais, moi j'ai un exemple là, très clair là, de visionnaire dans un OBNL. Puis tu sais, d'une certaine façon, dans certains cas, c'est moi qui ai joué un peu le rôle pour lui d'intégrateur, de le challenger. C'est quelqu'un d'exceptionnel, tu sais, qui a plein d'idées, mais qui, tu sais, quand vient le temps de faire de la reddition de compte ou d'organiser une AGA ou de penser à toutes les répercussions que ça peut avoir sur les gens autour de lui, c'est comme pas la portion qu'il aime vraiment faire, mais il est conscient que c'est important, mais ça lui prend des gens autour de lui pour lui rappeler que on peut pas passer à côté de ces éléments-là. Donc, si vous avez pas quelqu'un dans votre entourage proche à l'intérieur de l'organisation qui peut jouer ce rôle-là, puis je pense que ça vaut la peine de... Nous, on l'a beaucoup exprimé. Tu sais, on se le dit, oui. L'équipe le sait.
On en fait des blagues.
On en fait des blagues.
Il y a beaucoup d'auto-dérision, je pense, par rapport à nos non-forces, là, tu sais. Il y a des forces qui viennent avec chacun des deux profils, puis il y a des choses dans lesquelles on est moins bonne, c'est moins dans nos talents. On en rit beaucoup quand même. Je pense que ça fait, ça dédramatise un peu le fait qu'on n'est pas parfaite là, puis c'est pour ça qu'on a besoin de cette complémentarité là.
Ça donne une certaine légitimité à l'autre aussi,
ouais.
de jouer son rôle, de bien jouer son rôle. Tu sais, des fois, tu vas me dire, là, c'est important, là, il faut que tu me challenges.
Ouais.
Puis, donc, je pense que ça donne de l'importance aux deux rôles. Donc, si vous avez pas ces gens-là autour de vous, dans votre organisation près de vous, peut-être de chercher à l'externe, ça peut être parfois, peut-être dans certains cas, comme même un conjoint ou un ami ou un... peu importe, mais je pense qu'on a tous nos, comme gestionnaires ou comme leaders, un certain angle mort qui est important là, pour vos équipes d'être capable de couvrir.
Oui, parce qu'on peut pas être les deux. T'sais, sont extrêmement rares les gens qui peuvent jouer les deux rôles. On est soit davantage un, soit davantage l'autre. D'ailleurs, pour votre information, si vous voulez, sur le site web du livre, là, c'est gratuit, vous allez pouvoir aller faire les petits tests pour voir est-ce que vous êtes plus un visionnaire, plus un intégrateur, puis ça peut vous donner des indications de ce que vous avez besoin de trouver comme personne à intégrer dans votre équipe ou à trouver à l'intérieur même de votre équipe pour vous compléter. Parce que la complémentarité, je pense, c'est là qui est la clé du succès, là, quand on veut continuer à progresser puis avoir une certaine réussite dans notre organisation. Fait que n'hésitez pas à aller faire ces tests-là pour voir quel est votre profil, mais quels sont vos besoins de complémentarité. Complémentarité étant le mot qui revient le plus quand on nous décrit, hein, tout le monde le dit.
Je pense que oui, en effet. Puis j'ai l'impression que ça, pour nous, ça a été aussi, ça nous soulage d'une certaine façon parce qu'on c'est comme si on répartissait un peu la charge, ouais. La responsabilité sur deux épaules, sur quatre épaules plutôt que deux. Donc oui, en tout cas, bien contente de pouvoir partager cette aventure-là avec toi.
Ouais.
Puis je pense que c'est vraiment un concept qui est extrêmement intéressant là, pour les organisations puis auxquelles nous, on croit là, profondément.
Oui, puis peut-être juste deux, trois choses en terminant qui sont vraiment importantes à tenir en compte si vous allez vers ce modèle-là. Assurez-vous d'abord d'avoir des valeurs communes parce que si vos profils sont différents, vos forces sont différentes, ce qu'il faut qu'ils soient vraiment alignés, c'est les valeurs parce que quand il faut qu'on discute sur des choses qu'on n'aura pas la même perspective, ça va arriver là. Tu sais, ça nous arrive régulièrement, on a des discussions, on part pas nécessairement du même point de vue, puis on n'est pas tout le temps d'accord, surtout, puis pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on puisse revenir aux valeurs. Puis quand tu pars avec des valeurs communes, je pense que c'est essentiel, en fait, pour que ça puisse fonctionner, un duo comme celui-là.
C'est vrai, t'as raison, on l'a souvent dit, on a une personnalité différente, mais au final, notre vision, nos valeurs là, se rejoignent beaucoup. Puis dans certains cas plus extrêmes ou particuliers, on a chacun aussi nos sphères d'expertise ou nos zones.
Ben, c'est ça que j'allais dire, les rôles, il faut qu'ils soient quand même clairs. On a beau être en co-gestion, toutes les décisions importantes, on les prend en commun, on en discute, puis on s'assure d'avoir ce canal de communication-là tout le temps ouvert, mais il reste que parce qu'on a des forces, forcément, on a des rôles qui sont plus importants pour l'une ou pour l'autre. Donc, tu sais, forcément, moi, j'aime être avec les gens à l'externe, le développement des affaires, tout ce qui touche l'aspect parler avec du monde. Et Caroline va s'assurer d'avoir tout l'aspect plus opération, gestion de l'équipe, s'assurer qu'ils ont tout ce que ça leur prend.
Rentabilité.
J'allais dire tout l'aspect des finances. C'est la VP des opérations, la VP des finances. Moi, je vais être la VP marketing, la VP développement des affaires. Donc, on a quand même nos rôles qui sont associés à nos forces, là, tu sais, dans tout ça. Puis, il faut que ça soit clair.
Ouais, définitivement.
Puis, de toute façon, on a plus de plaisir à travailler dans ce qui nous plaît puis dans quoi on sent qu'on est bonne. Puis, avoir du fun aussi ensemble, si vous, tu sais, vous cherchez votre intégrateur, si vous êtes un intégrateur qui cherchait un visionnaire, avant de commencer à travailler ensemble, je pense que l'important, c'est surtout d'avoir du plaisir avec la personne parce que vous allez la côtoyer vraiment beaucoup. Si vous tombez ses nerfs au début, faites pas ça. C'est pas une bonne idée.
Je pense que c'est pas une relation qui se force, hein. Tu sais, ça reste que faut qu'il y ait un grand respect, tu sais, mutuel, puis du plaisir à travailler ensemble définitivement, parce que c'est un choix. C'est un choix de tête, mais en même temps, je pense qu'il faut que ça soit un choix de cœur aussi.
Absolument, absolument. Puis faire front commun, je pense que c'est un autre élément à tenir compte. Si on s'entend sur les choses qui sont importantes pour nous au départ, c'est un peu bizarre comme analogie à faire, mais un peu comme un couple avec des enfants. Il faut qu'on s'entende sur les grands alignements. On peut ne pas être d'accord au début d'une conversation, mais une fois qu'on a pris une décision commune ensemble, ben il faut faire front commun pour s'assurer que la crédibilité des deux leaders puis des rôles qu'on occupe dans l'organisation puisse perdurer avec le temps.
Tout à fait.
Alors voilà, c'était un petit peu le résumé du modèle que nous, on a décidé d'adopter en termes de leadership auprès de notre équipe. J'espère que ça vous a donné des idées puis que ça vous a inspiré pour aller explorer ce modèle-là un petit peu plus en profondeur. Si vous avez envie d'en jaser, ben appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous donner un peu plus d'informations sur qui on est puis comment on fonctionne, puis peut-être que ça pourra vous donner des pistes de solutions dans vos organisations. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre podcast, allez vous abonner sur n'importe quelle plateforme. On est partout. Donnez-nous des étoiles, ça nous fait plaisir. Envoyez-nous vos suggestions de sujets pour les prochains épisodes. On sera très intéressés à vous lire. Alors voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Caro.
Salut, merci.
Bye.
Bye.